Bonjour à tous, c'est Denis Brognard. Vous écoutez Vie d'aventure, un podcast où je m'entretiens avec des hommes et des femmes aux destins extraordinaires. Des aventuriers, scientifiques, photographes, navigateurs, plongeurs ou encore alpinistes. Ils ont en commun une soif d'exploration. Je vais à leur rencontre, ils se confient sur leurs exploits, leurs expériences, en traduisant par des mots leurs émotions. Une photographie sonore avec des personnages hors normes qui forcent le respect par leur courage et la dimension de leur engagement. Ces héros des temps modernes vont vous transporter dans leur monde, vous permettre de vous évader et de réfléchir avec eux à l'évolution de notre planète. Prenez le temps de les écouter, ces baroudeurs, ces voyageurs. Voici tout de suite un nouvel invité dans Vie d'aventure. Frédéric Zwierzynski plonge dans les entrailles de la Terre, des plongées extrêmes, en eau douce, dans des grottes, des lacs, à la découverte de fonds inexplorés jusqu'à plus de 250 mètres de profondeur. En opposition aux extraterrestres, ce spéléonaute se considère comme un intraterrestre. Marseillais d'adoption, ingénieur, aventurier, Frédéric a un credo dans cette vie exceptionnelle qu'il s'est construite. Explorer, innover, préserver, avec aussi une démarche scientifique lors de chacune de ses expéditions. Nous allons plonger très profond avec lui, prendre de l'altitude aussi en Argentine, retenir notre souffle parfois en l'écoutant traduire par des mots les sensations ressenties dans des eaux glaciales et si peu explorées. Frédéric Zwierzynski est mon invité aujourd'hui dans Vie d'aventure. Bonjour Frédéric.
Bonjour Denis.
Alors d'où te vient cette attirance pour les plongées intérieures, les grottes, les lacs, l'eau douce?
Je pense que c'est tout droit en continuité de ma jeunesse. Ça a été de la chasse sous-marine à partir de 7 ans et puis de la plongée à partir de 12 ans. À 18 ans, j'avais déjà fait un peu le tour de tout ce qui pouvait se passer au niveau de la plongée traditionnelle et j'ai eu une connaissance qui m'a mené directement sous terre. D'abord parce que, vu que je suis assez costaud, c'était pour transporter des bouteilles pour d'autres spéléos. Et puis quand j'ai vu cette eau bleue sous terre dans les Pyrénées, même si elle était froide, je me suis dit, c'est là que je vais continuer.
Alors ce qui est étonnant, c'est que toi, tu es né au bord de la mer, de l'Atlantique, et qu'aujourd'hui, tu vis au bord de la Méditerranée. Néanmoins, tu plonges, dans la grande majorité des cas, en eau douce.
Ouais, la vie est très coquine. Quand tu es étudiant, que t'as pas trop d'argent et que tu veux faire de la plongée profonde, tu peux pas te payer un marin, un bateau. Et puis c'est très très dur en fait de plonger en toute sécurité en mer. Il y a de la houle, il y a du courant. Donc très rapidement, je me suis mis à m'entraîner en eau douce parce que c'était facile d'accès. Tu peux plonger tout seul et tu peux commencer à faire de la profondeur tout seul. Initialement, c'était vraiment pour m'entraîner, pour aller faire des plongées épaves qui n'étaient pas connues sur la côte atlantique. Et après, j'ai complètement été envoûté par ce milieu-là et j'ai complètement glissé vers la partie spéléo qui m'intéressait énormément. C'était et l'aspect découverte du milieu, et l'aspect découverte aussi du matériel, et l'aspect découverte de la physiologie, puisqu'on n'avait pas aussi de connaissances pour de la plongée profonde de cet ordre-là pour les particuliers.
On y reviendra évidemment parce qu'il y a toujours une connotation scientifique derrière chacun de tes exploits. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de la plongée, quelle différence fais-tu entre une plongée en mer et une plongée en eau douce?
Je dirais que la plongée en mer se caractérise normalement avec une plongée sans plafond. Ça veut dire qu'on peut remonter à n'importe quel moment, à moins qu'on ait un palier à faire, un arrêt au retour, mais normalement, on n'a pas de plafond, on a de la lumière. On est sur des endroits où il y a énormément de vie. On n'est pas sur un endroit qui ressemble plus à un territoire lunaire ou très minéral comme ça existe quand on est en eau douce. Pour tout ce qui est spéléo, on n'a pas l'arrivée de cette lumière, ce qui quand même engendre une vie qui est très 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 limitée. D'autre part, la mer, il y a énormément de nutriments, donc la faune et la flore est incroyable. Par contre, pour tout ce qui est en eau douce et sous terre, il y a très très peu d'espèces vivantes. On a quand même un peu tendance pour rentrer sous terre à se rabaisser. Quand tu es en mer, tu sautes d'un bateau, tu es droit, tu es dans la lumière, tu es un peu dans l'euphorie. À partir du moment où tu passes sous terre il y a déjà un respect qui est encore plus important par rapport au milieu, puisque tu t'abaisses. Et puis à un moment, tu ouvres la lumière aussi, puisque tu utilises des éclairages. Et puis tu suis aussi un fil guide, parce que pour pouvoir aller plus loin sous terre, on a besoin de suivre un fil guide, parce que s'il se passe quoi que ce soit, il faut rentrer par ce fil guide. Tu vois, il y a beaucoup plus de respect par rapport au milieu, il n'y a pas de liberté, dès le départ, on est obligé de s'acclimater à ce milieu qui nous restreint et qui nous oblige à avoir un respect énorme, alors que c'est beaucoup plus de la fantaisie et du plaisir direct quand on est en mer.
Est-ce que ça veut dire, si je traduis tes mots, que c'est plus dangereux, plus risqué de plonger en eau douce, de plonger dans des grottes ?
Directement, à partir du moment où on est sous terre, on a un engagement qui est important parce qu'on ne peut pas remonter en surface. Donc tout de suite, il faut être sérieux, il faut apprendre des protocoles qui demandent du temps et de l'enseignement. Alors qu'une plongée en mer, et ce que je souhaite à tout le monde, c'est de faire par exemple une découverte de la plongée en eau chaude, où on peut presque plonger en maillot de bain et avec un minimum de matériel, c'est tout de suite du plaisir avec le milieu. Donc oui, en effet, c'est la plongée souterraine, tout de suite, c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus engagé.
Ta formation, c'est celle d'un ingénieur en optronique, c'est-à-dire un mélange entre l'optique et l'électronique. Est-ce que c'est cet engagement qui te donne ce besoin en plongée, cette envie de découvrir, d'aller toujours plus loin ?
Que ce soit pour le plaisir ou que ce soit pour les aspects professionnels, ça a toujours été à outrance. C'est toujours essayer de faire beaucoup plus que les autres et voir quand est-ce qu'on tape dans le mur. Et c'était surtout lié à des pulsions de jeunesse. Maintenant, je le vois autrement, si tu veux. Mais je pense que j'étais vraiment un fou durant ma jeunesse, quoi.
Mais cette vocation d'ingénieur, c'est aussi ce qui te pousse toujours à vouloir découvrir plus en plongée.
C'est ce qui me pousse à non seulement vouloir découvrir plus en plongée, mais pas uniquement la visite, pas le fait juste de dépasser un terminus ou de découvrir de nouveaux territoires. Ça va plus loin. Moi, j'ai vraiment besoin de travailler sur tout mon matériel et tout le travail en amont, qui est super important. Quand tu fais de la piste en moto, tu passes plus de temps dans ton garage à préparer ta moto que tu ne le passes en fait à vraiment conduire ta moto sur un circuit. Et en plongée spéléo, au niveau de découverte, qui n'est pas que du territoire, hein, au niveau de découverte du matériel, des protocoles, des tables de plongée, de la physiologie, de tous ces aspects médicaux, de créer sa propre cloche de décompression, ses premiers systèmes de chauffage. Voilà, c'est tout un ensemble. Et peut-être qu'aujourd'hui, je suis à 50-50, c'est-à-dire que je passe 50% de mon temps à me créer des nouveaux outils pour aller sur de nouveaux territoires. Donc oui, en effet, c'est pas que la partie sportive ou la partie scientifique. Il y a toute cette partie en amont qui est de développement et de recherche et d'ingénierie. Oui.
Il y a une année charnière dans ta vie. C'était il y a 7 ans, 2013, l'année du décès de ton père, surnommé Tarzan, grand joueur de rugby, champion de France avec Bègles en 1969, qui compte également quelques caps en équipe de France au poste de talonneur. À ce moment-là, tu ouvres les yeux et tu dis « je veux vivre ». Je veux aller vraiment au bout des choses. En quoi ce décès, le départ de ton père, a vraiment provoqué ce déclic ?
Déjà, je suis le premier de la famille, mais on est deux enfants. Et moi, j'ai toujours eu la liberté de faire tout ce que je voulais. J'ai toujours travaillé autour du monde, voilà, sans être obligé d'assumer un anniversaire, un Noël. J'ai toujours été le garçon de la famille et je faisais ce que je voulais, quoi. Et mon père est décédé d'une maladie affreuse qui s'appelle la maladie de Charcot. Et pendant un an, si tu veux, j'ai fait des allers-retours entre Marseille et Bordeaux. Et puis je l'ai vu tomber doucement. Et j'irai pas jusqu'au détail de la fin, quoi. Parce qu'on a quand même eu la chance de l'avoir à la maison. Et on a eu le temps de parler. Et je suis d'origine polonaise et la seule chose qu'on m'a appris quand j'étais minot vis-à-vis du travail et autres, c'était tu travailles et après tu t'amuses. Donc, avant cette période-là, c'est pour ça que j'étais aussi à fond sur ma vie d'entrepreneur. J'ai eu une jeunesse où je plongeais, je faisais de la folie et je prenais vraiment du bon temps. Et après, il y a eu cette partie professionnelle où là, j'arrêtais pas. C'était que ça, c'était sans arrêt. Et avec les plongées que je fais, j'ai besoin de m'entraîner. Sinon, c'est impossible et il m'arrive quelque chose et enfin, je vais directement à la mort si j'ai pas du temps d'entraînement. Et donc, en le perdant, on a eu le temps d'en parler et on a revu, en fait, tous les deux, de son vivant, quels étaient les objectifs de la vie. Et c'est là que j'ai compris que j'avais 40 ans, il en avait 65, il me restait 25 ans. Et j'ai tout plaqué d'un point de vue professionnel, quoi. C'est-à-dire que je suis parti sur un boulot qui était beaucoup plus simple, avec beaucoup moins de rendement financier, mais je me suis créé du temps libre pour repartir à fond sur la plongée, ce qui était mon plaisir fou, quoi. Il y a eu ça, et puis aussi, il y a eu l'arrivée d'une petite fille qui s'appelle Jade et qui a changé ma vie aussi, quoi.
Changement complet de philosophie. Est-ce que tout de suite, tu as vu la différence dans ton quotidien et dans la qualité de tes performances en plongée?
Ah mais ça a été immédiat. Il y a eu un an pour tout remettre en route. Il y a plein de nouveaux matériels qui sont comme ça d'aspect facilement accessible, mais pour le pousser au maximum de l'utilisation et des capacités, il faut s'entraîner, il faut faire des heures. Et je pense que c'est justement sur ce démarrage à fond et cet entraînement et cette volonté radical à 40 ans que je suis rapidement arrivé à un niveau assez important, quoi. Voilà. Ce qu'il en est aujourd'hui et sur lequel aujourd'hui je surfe, quoi. Ça vient vraiment de cette période d'entraînement à outrance.
Tu t'entraînes où? À quelle fréquence? Et comment?
Donc, j'ai la chance de vivre sur Marseille, ce qui me permet, même si beaucoup de gens peuvent pas le comprendre, mais je vais pas plonger en mer, déjà, d'une part, parce que l'été, c'est affreux, il y a trop de touristes et c'est très dangereux. Une fois que tu as fini ta plongée, quand tu vois l'environnement autour, ça dégrade totalement le plaisir que tu as pris pendant la plongée. Et je plonge aussi dans pas mal de résurgences ici. Il y a Port-Mioux. Hein. Port-Mioux, c'est une rivière souterraine, une des plus importantes du pourtour méditerranéen. On a vraiment une rivière qui coule sous terre. Puis après, en remontant sur Lyon, ou alors dans le Lot, ou alors en pays catalan, ou en Ardèche. Il y a énormément d'options possibles suivant si on est en période où il y a des touristes. Et donc, à ce moment-là, tu n'as pas envie de les déranger quand ils sont en bord de rivière ou si c'est en plein hiver et où il n'y a personne. Et là, voilà, tu peux t'envoyer profond sans déranger tout le monde. Voilà, j'essaie vraiment de ne pas gêner les gens à travers mon activité, de ne pas faire d'entrave aussi à la vie d'autres personnes sur les sites. Voilà, c'est important pour moi.
Est-ce que tu t'entraînes souvent seul?
Oui, de toute façon, je finis toujours seul, mais j'apprécie énormément d'arriver sur un site avec des amis et de faire toute la préparation ensemble, même si à un moment, on se sépare parce qu'on n'a pas les mêmes limites ensemble. C'est-à-dire que un va s'arrêter à, par exemple, 50, 60 ou 90 mètres de fond, un autre va s'arrêter à 120 mètres, et puis peut-être que j'irai à 150 ou à 200. Mais le fait quand même de partager ces moments avec des amis, c'est très important. C'est quand même beaucoup plus agréable que de plonger seul. Mais ça m'arrive énormément, malheureusement, de plonger seul. Oui.
Alors, je voudrais qu'on revienne à cet exploit en 2016, où tu es le premier homme à moins 260 mètres. Je répète, moins 260 mètres dans cette grotte multisiphon dans le Var, la cavité de la Mescla. On a envie d'être avec toi, de plonger avec toi, de ressentir les sensations qui ont été les tiennes à ces niveaux de profondeur.
Des conditions incroyables, de l'eau pas vraiment froide, une bonne visibilité, un site sur lequel j'ai plongé toute l'année à peu près une fois par mois. Et ensuite, un ami, Didier Quartiano, avec lequel j'ai préparé en amont cette plongée. Il s'était pris une semaine de vacances. Et on a, au fur et à mesure, amené tout le matériel dans le siphon numéro 3. On a passé une échelle pour gravir l'escalade. Enfin, c'est quand même incroyable la mise en œuvre qu'on a mis là-bas. On est allé percer dans le siphon numéro 3 pour mettre des fixations. Et à la fin, amener une cloche de décompression. Une cloche de décompression, c'est un ensemble qui est souple, donc qui peut se démonter et qui fait la taille à peu près d'une poubelle de conteneur que vous avez dans la rue. Voilà. Mmh. Donc ça permet, en cas de problème au retour de cette plongée, qui est réellement possible ce genre de problème, de mettre le plongeur à l'abri, au sec, Ça veut dire que même s'il a des problèmes de fonction vitale, il a en tout cas la tête dans l'air et il ne se noie pas dans l'eau.
Vous pouvez la sortir, l'utiliser en plein milieu de l'eau.
Elle est équipée pour qu'au retour de la plongée, alors bien sûr, tu n'as aucune protection de toi quand tu es à 260 ou 270 mètres, mais quand tu rentres, et c'est souvent là qu'il y a des incidents qui se passent, quand tu rentres, que tu fais tes paliers de décompression, c'est ces grands stops, tu vois, c'est ces grands stops qui t'autorisent à la fin de sortir de l'eau. À ce moment-là, c'est souvent là qu'en fait tu as un accident. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir ce genre d'issue. Ça veut dire réussir à se mettre dans un endroit dans l'eau et pour pouvoir sortir, tu vois, ton recycleur ou ton détendeur, pouvoir parler, échanger avec la personne, boire, manger, essayer de faire une médicalisation si c'est nécessaire.
Quelles sont les impressions à moins 260 mètres? Que ressent-on?
À ce moment-là, t'es vraiment très focus sur ce que tu fais. Tu descends, t'accroches ton fil, tu penses qu'au retour, en fait. T'es sans arrêt en train de penser au retour et t'es sans arrêt en train de regarder quelles sont tes constantes. Tes constantes, ça veut dire regarder si le gaz que tu respires est compatible et si t'es pas en train d'expirer du poison qui fait que tu vas rester là et que tu rentreras pas à la maison. Voilà. Donc, t'es très focus. T'arrives au fond. Là, c'était 267 mètres. T'accroches ton fil et là, tu rentres à la maison. Et là, déjà, à partir du moment où tu as fait demi-tour, c'est que tout s'est bien passé et que tu vas pouvoir rentrer doucement. Même si tu vas mettre 5 heures pour rentrer, si tu as déjà fait le demi-tour, ça veut dire que déjà, tu es sous protection de tous les calculs que tu as fait, de toutes tes solutions de secours. Parce que tu descends avec un scaphandre, enfin un recycleur qui est principal. Et autour de toi, tu amènes des petites bouteilles avec des secours au cas où il arrive un problème. Et à partir du moment où tu as fait demi-tour, quand tu as fait tous tes calculs et la préparation de ta plongée, tu sais que s'il y a un souci, tu pourras toujours passer sur ces bouteilles-là et tu auras toujours une solution qui t'autorisera à sortir. Tu commences à visualiser la plongée et que tu commences à prendre du plaisir et c'est là que tu te décrispes et c'est là que la joie arrive. Et ça, c'est une première joie qui est vraiment très, très égoïste. Et ensuite, t'as tes collègues qui sont sur la route. Et là, justement, Didier était à 100 mètres. Il m'a vu arriver, il y avait une belle visibilité. Il m'a vu facilement arriver de moins 140 mètres, si tu veux. Et moi, je l'ai vu là-haut et ça y est, c'était la liberté, quoi. T'arrives, t'as ton ami qui est là-haut qui t'attend. Il y a toute la sécurité qui est là. Enfin, c'était le paradis, voilà. Mais l'extase, elle est là. L'extase, elle est quand tu rencontres ton collègue et que là, d'un seul coup, il a vu que ça va bien. C'est-à-dire, même lui, il a arrêté de stresser par rapport à la situation.
Si je comprends bien, quand on est vraiment dans les plus grandes profondeurs, le stress, l'angoisse du problème prend le pas sur le bonheur de se trouver à un endroit où personne n'est allé auparavant.
Oui, à ce moment-là, oui. À ce moment-là, t'es une picousse d'adrénaline qui est telle, pour moi, il n'y a pas d'objectivité. C'est quand ça retombe, juste après, hein, c'est rien, c'est juste faire demi-tour et rentrer. C'est quand ça retombe que là, tu es en plein plaisir. Et puis maintenant, avec les outils actuels, tu amènes toujours une petite GoPro, une petite caméra, une action caméra. Et là, alors là, c'est non seulement ça y voit mieux que toi, ça a moins besoin de lumière. Et là, tu as tout le temps de regarder tous les détails.
Frédéric Zwierzynski, plongeur de l'extrême en eau douce et mon invité aujourd'hui dans Vie d'aventure. Combien de temps de descendre, combien de temps de remonter quand on va à de telles profondeurs?
Les cavités sont très variables. Il y a des cavités qui sont très verticales où tu as des puits où tu peux arriver au fond en 30 minutes. Et il y a d'autres puits où tu peux mettre plus d'une heure et demie. Port Mew à Cassis, c'est plus de 230 mètres. Il faut à peu près une heure pour arriver là-bas parce que tu as parcouru 2,5 km avant, dans l'eau. Alors que Fontes Ramar, par exemple, à Fitou, en pays catalan, tu peux y être en 25 minutes.
Et la remontée?
La remontée, c'est, pour ce genre de profondeur, c'est minimum 5 heures. On paie très très cher le peu de temps qu'on passe au fond. C'est très 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 cher.
C'est combien de paliers et à chaque fois combien d'arrêts?
En fait, on est étalonné tous les 3 mètres. Sur la plongée de la Mescla 267, c'est un premier arrêt à moins 140 mètres. Et à moins 140 mètres, tu commences à t'arrêter tous les 3 mètres. C'est obligatoire.
Et tu t'arrêtes combien de temps?
Les premiers paliers vont être de l'ordre d'une à deux minutes. Et les derniers vont facilement faire 2 heures. Donc tu vois, c'est complètement exponentiel. C'est complètement, si tu veux, en accordance avec le fait que tes tissus, enfin que le gaz s'échappe de ton corps doucement.
Et on est d'accord, Frédéric, si on ne réalise pas ces paliers, si on ne les respecte pas, c'est la mort assurée.
Écoute, tu secoues ta bouteille de champagne, tu l'ouvres et puis tu vois ce que ça donne. C'est exactement la situation de ton corps, quoi. Ton corps a un bouchon qui est ce facteur temps. Et si tu passes pas ce temps-là, t'as tout qui explose.
Quelle est ta philosophie quand tu plonges comme ça? Est-ce que c'est la recherche de l'exploit, du record ou tout autre chose?
Là, j'ai 47 ans. J'ai commencé à 12 ans. Ça a quand même été assez évolutif. À fond de testostérone, à 20 ans, tu cherches que le chiffre, il n'y a que vraiment l'exploit sportif qui t'intéresse. Alors que là, depuis maintenant, on va dire 7-8 ans, si tu veux, même à ce niveau-là, ça a évolué. Si tu veux un minimum de reconnaissance pour être plus libre et arrêter de travailler à outrance pour vivre, tu as besoin aussi de marquer la population et les gens sont vraiment accrochés à des chiffres. Donc quand tu es dans les capacités de faire des exploits en profondeur, bien sûr que tu vas accrocher des records de profondeur puisque c'est ce qui reste dans la mémoire collective. Mais je dirais qu'aujourd'hui, 95% de mon activité, elle est vraiment associée au monde scientifique, à la recherche d'espèces, à la protection de l'environnement et peut-être aussi à la quête de l'inutile dans le sens où c'est vraiment se faire plaisir et partager des moments entre amis aussi, quoi. Ce qui est totalement ce que représente notre dernière expédition en Argentine.
On va revenir sur cette expédition en Argentine dans quelques minutes. Mais d'abord, restons en Europe, en Croatie, avec cette tentative de descente sur le lac Rouge, où l'objectif, c'était moins 300 mètres, pour être à nouveau le meilleur, le plus grand, puisqu'aujourd'hui, le record est détenu par Xavier Meniscus, avec moins 286 mètres réalisés dans les Pyrénées-Orientales, il y a un peu moins d'un an. Et en fait, quand tu arrives au fond de ce lac Rouge, tu regardes tes mesures et tu te rends compte que tu n'es qu'à moins 240 mètres parce que le fond évolue, c'est ça, le fond n'est pas toujours à la même profondeur.
C'est un lac, si tu veux, qui est alimenté suivant la fonte des neiges. Et cette année-là, il n'y a pas eu de hauteur de neige suffisante pour que le fond soit à 300 mètres. Et le problème, c'est que c'était un engagement tellement important de la part des gens sur place qui ont construit un ponton pour ça, et puis tout ce que ça représente au niveau de la mise en œuvre pour faire ce genre de record, que de toute façon, je suis allé faire la plongée, si tu veux. Les derniers résultats et les derniers tests les années précédentes indiquaient qu'il y avait plus de 300 mètres. Quoi.
Ouais.
Et voilà, et puis j'ai fini à 244 mètres parce que c'est la profondeur qu'il y avait. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait des prélèvements au fond et qu'au milieu de ces limons que j'ai sortis et extraits du fond, ils ont trouvé une nouvelle espèce, donc il y a eu un résultat par rapport à toute l'énergie et l'engagement qu'il y avait eu de la part de tout le monde dans cette aventure.
Frédéric, que trouve-t-on au fond justement d'un lac comme celui-ci? On est avec toi, on est tes yeux là au moment où tu nous parles.
Je descends en scooter, rapide, hein. Je suis à près de 70 mètres minute et voilà, j'arrive sur la zone des 220 je pense, et là je vois le sol, bon, j'étais un relativement déçu, mais je vois quand même, si tu veux, une pente. Donc tout de suite, je prends mon fil, je prends mon scooter et je commence à attaquer la descente dans cette pente comme une dune de limon avec quelques blocs de partout. Voilà, et puis j'ai été chercher au plus bas de la pente et j'ai trouvé 244. Ensuite, les scientifiques sur place m'avaient laissé des éprouvettes et avant de remonter, j'ai fait l'acquisition de deux éprouvettes de limon. J'ai attaqué mon retour parce que j'avais plus rien à faire.
Quelle vie trouves-tu dans ce lac? Vie végétale, vie animale, à ces profondeurs extrêmes?
La vie végétale à ces profondeurs-là, c'est quand même assez difficile puisque la lumière, passée 300 mètres, elle pénètre pas vraiment. D'autre part, tu es en plein été, donc l'eau est beaucoup plus trouble l'été que l'hiver, donc ça empêche vraiment la pénétration de la lumière. C'est comme des petits crustacés, en fait. Ça fait partie de la famille des crevettes, si tu veux, et ça fait la taille, ça fait 5 mm de long, quoi. Et ça se nourrit essentiellement, si tu veux, de ce que rejettent les animaux de surface, à savoir les poissons et autres espèces, quoi. Voilà.
Mais à ces profondeurs, il y a pas de poissons.
À ces profondeurs, là, je n'ai pas vu de poissons, puisque, si tu veux, ils se nourrissent beaucoup plus en surface. Mais il m'arrive, sur d'autres explorations en d'autres lieux, de trouver voilà, des vertébrés comme les protées, qui ressemblent à des petites salamandres blanches, qui n'ont pas d'yeux. Et ça, j'en ai découvert jusqu'à 120 mètres à Ogulin. Voilà, c'est au sud de Zagreb.
Revenons sur les sensations sur ce type de plongée. Je te cite. Tu dis, je me suis retrouvé un peu comme un spationaute en sortie extravéhiculaire depuis une station orbitale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une analogie avec ce qui peut se passer dans l'espace, avec les mouvements, avec cette capacité à être en dehors de la pesanteur.
Écoute, la plongée fait quand même partie de l'entraînement des spationautes. Donc ça veut dire quand même, on est sûrement sur un parallèle. Sachant qu'eux restent en permanence en connexion avec leurs ingénieurs, alors que moi, à partir du moment où je quitte la surface, je n'ai plus de connexion avec l'ensemble de l'équipe. Donc moi, il y a vraiment un blanc, tu vois. Il y a un moment où je passe derrière la Lune et où j'ai plus de connexion avec la Terre. Donc oui, il y a plein de technologies aussi qui sont similaires. C'est-à-dire qu'on utilise des recycleurs pour l'air, alors qu'eux-mêmes utilisent ce genre de recycleurs. On utilise des vêtements qui sont étanches, avec une fermeture éclair étanche. Tout ça, ça a été vraiment développé pour le monde du spatial. Donc voilà, je pense que ça y ressemble totalement. Donc, il est pesant de pénétrer ce monde liquide de façon profonde avec toute cette hauteur d'eau. 244 mètres, ça veut dire 24 bars. 24 bars, c'est tu prends ton doigt, ton pouce, tu le poses sur ta table et là, il faudrait que tu puisses appuyer 24 kilos. Et ça, c'est sur tout ton corps. Donc, c'est énorme. C'est des contraintes énormes. Tu ne peux pas revenir d'un moment où tu as été aussi comprimé à la surface sans être puni par du temps pour pouvoir tout rétablir les équilibres dans ton corps.
Alors justement, une fois que tu reviens à la surface, dans quel état physiologique et psychologique es-tu ?
Alors moi déjà, à partir du moment où je ressors, c'est bien, c'est réussi, c'est l'euphorie. C'est aussi l'euphorie parce que tu as réussi à mener à bien une mission qui a été partagée avec tout le monde, où tout le monde s'est acharné pour que tu puisses faire ça. C'est-à-dire que tu es le dernier... T'es le dernier porte-relais de toute l'équipe. Donc, t'as quand même ce poids sur les épaules, parce que c'est aussi une forme de respect. Voilà, c'est comme celui qui joue au rugby et qui va au bout et qui marque l'essai, quoi. Ça veut rien dire, hein, parce que s'il a pas toute l'équipe derrière, il marque pas son essai et le point, il passe pas, quoi. Donc, c'est exactement ça. Quand je reviens, c'est ce partage qui est important pour moi. Le côté singulier m'intéresse pas.
Et physiquement ?
Physiquement, tu es fatigué parce que c'est le froid, c'est un combat du froid permanent, que ce soit et par le milieu extérieur, il fait froid dans ces eaux, hein, et aussi parce que tu es attaqué de l'intérieur, puisque le gaz que tu respires finit par être froid. Donc voilà. Après, je suis à 1m85, j'ai aussi entre 87 et 90 kilos, il y a quand même de la masse, ce qui fait que bon, je ne me refroidis pas comme ça rapidement.
Tu avais l'objectif de descendre à moins 300 mètres. C'est possible ? Tu vas t'y attaquer à nouveau ?
Je pense que c'est encore faisable. Je ne suis pas trop vieux. Après, ce n'est pas une fin en soi. Il faut vraiment que je l'associe à une belle histoire. Si ça me porte, s'il n'y a pas un minimum de rêve dans tout ça, si c'est juste pour un résultat, je vois comment ça se passe autour de moi et c'est pas une fin en soi pour moi. Par contre, pour aller découvrir quelque chose, oui, ça m'intéresse.
Où ça, par exemple ?
Pour la France, si tu veux, je sais où aller, mais est-ce que je connais déjà bien ces lieux-là ? Donc, si c'est pour faire 10 mètres de plus, si tu veux, c'est un peu frustrant. Donc, maintenant, je travaille sur d'autres destinations, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud. Voilà. Comme ça, ça me permet aussi de faire de la découverte sur l'acheminement jusqu'au but ultime, qui serait les 300 mètres. Mais voilà, ça apporte autre chose.
Est-ce qu'à un moment, tu te crois capable de battre le record absolu de plongée avec des bouteilles que détient depuis 2014 un Égyptien, Ahmed Gamal Gabr. C'était en mer Rouge, donc dans de l'eau salée, à moins 332,35 mètres pour être précis.
Je pense, oui. Je pense que de toute façon, si je fais ce genre de choses, ça sera pour tout réduire à néant chez tout le monde, quoi. Ça sera un résultat global. Voilà. Si je me donne les moyens, c'est pour un résultat. Mm-hmm. Si tu veux, on ne se retrouve pas à avoir des besoins physiologiques de quelqu'un de 30 ans comme le demande l'athlétisme ou d'autres disciplines. On a surtout besoin d'être en bonne condition physique et mentale et trouver le site. Et ce n'est pas, si tu veux, ce n'est pas aussi que le fait d'attraper un chiffre sur une ligne. Il faut vraiment que l'environnement s'y prête. Donc voilà, c'est plusieurs conditions qui se croisent pour arriver à ce genre de choses.
J'ai lu certaines de tes déclarations et je te cite à nouveau. Tu dis « Je suis timbré ». Qu'entends-tu par « être timbré » ?
Je pense que je ne me limite pas dans mes rêves.
C'est ça, être timbré ?
Ah, je pense que ça va pas plus loin que ça. Ça serait prétentieux de dire que c'est beaucoup plus, mais je pense que s'il y a pas un peu de folie dans ce que je fais, je vais vraiment m'ennuyer, quoi. J'ai la chance d'avoir une vie avec plein de surprises, voilà, et que je me suis aussi créé. Et, je crois que le côté timbré, c'est vraiment un côté folie qui est nécessaire à la vie.
Comment gérer cette folie avec sa famille, avec les gens qui partagent sa vie ? Parce qu'il y a forcément une part de risque.
Le gérer, est-ce que tout le monde le comprend ? C'est pas évident. Est-ce que c'est nécessaire ? C'est pas évident non plus. Je crois qu'il y a quand même des grands moments où t'es enfermé sur toi-même. Et je pense que ça représente une grande partie de ma vie d'être que dans mes idées. Je peux pas partager tout ce que j'ai envie de faire. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait le comprendre. Après, il faut s'organiser à vivre avec des gens qui te supportent. Je dois rien à personne. Et du coup, ça me donne un niveau de liberté qui fait que c'est peut-être pas acceptable quand tu vis avec quelqu'un, quoi. Voilà. C'est pas de l'irrespect, hein. C'est juste que ce que je veux faire, c'est primordial.
Comment réagissent et ta fille et la maman de ta fille par rapport à toutes tes envies ?
Alors, la maman, elle sait que de toute façon, ça ne sert à rien qu'elle fasse la moindre remarque.
On le connaît depuis assez longtemps. Comme ça, c'est clair.
On n'en parle même pas de ça, si tu veux. Et alors là, après, il y a la fille. C'est peut-être celle que j'écouterai le plus, quoi. Voilà. Je suis tellement amoureux de ma fille que, si tu veux, je...
Je te sens ému quand tu en parles, là.
Ouais, c'est important.
Elle pourrait limiter tes exploits, limiter tes envies.
Non, ça, c'est pas comme ça que ça se passe, si tu veux, mais c'est elle qui influe le plus sur le fait que je m'en vais moins souvent et que je me sens plus très bien à l'aise quand je m'en vais longtemps. Et voilà, quoi, c'est affreux, c'est saloperie de téléphone, si tu veux, c'est que... Chaque fois que tu l'as et que tu es loin, en plus il y a le téléphone satellite maintenant, c'est encore pire. Voilà, chaque fois que tu l'as, c'est moi ça me remue l'estomac, quoi. Voilà.
Est-ce que quand tu te retrouves dans ces profondeurs, que ce soit dans une grotte ou dans un lac, il t'arrive d'avoir peur de mourir, de ne pas remonter ?
Oui, je pense que c'est quand même un combat. C'est un combat pour rester vivant, mais ce combat pour rester vivant, c'est avant que ça se prépare. C'est l'entraînement, c'est... Je me dis, fais gaffe, quand tu plonges en recycleur pour faire court, si tu commences à t'essouffler, tu reviendras jamais de ton essoufflement. Mmh. Tu resteras sur place. Voilà. Donc quand je sens que, tu vois, je bouge un peu trop, que ça devient trop fort, là, d'un seul coup, je me dis, fais pas le con, tu vois, récupère. Et puis voilà, parce que je sais très bien que si je récupère pas, je vais au carton, quoi. Voilà, mais c'est à ça que je pense. Je pense pas à la mort, tu vois. Je me dis juste qu'il faut pas faire le con, voilà, c'est tout. C'est sans arrêt s'écouter. Puis de toute façon, pour la plongée profonde, si tu commences à trop t'animer, tu vas vraiment au carton. Donc, ce qui fait que tu fais pas de bulles aussi, tu es avec un recycleur, donc tu es à fond sur ça. T'es sans arrêt en train de monitorer, de savoir comment tu respires, d'écouter ton cœur, de voilà, pour pas commencer à partir sur un mauvais feeling. Parce que si tu fais ça, tu rentres pas. Quand t'es à 250 mètres, s'il y a quelque chose qui commence à ne plus aller, tu n'auras pas le temps de te rattraper. Il faut pas y aller. faut pas aller dans la zone rouge, c'est interdit.
À 250 mètres de profondeur, tu n'as absolument pas le droit à l'erreur.
Non, tu n'as pas le droit à l'erreur. Il faut que tout ce qui est autour de toi soit parfaitement équilibré. Il ne faut pas que tu utilises ta masse musculaire pour faire des choses rapides ou quoi que ce soit. Tu es une danseuse, quoi. Tu es une danseuse. Il faut que ce soit léger, fluide. C'est très important. C'est un ballet.
J'adore cette comparaison, Frédéric. La danseuse des fonds sous-marins. Revenons plus près de nous, 2019 et 2020, parce que là, tu tentes une nouvelle expérience où l'important, ce n'est pas de plonger profond, l'important, c'est de plonger à une altitude extrême. Tu pars aux portes du désert d'Atacama, en Argentine, à la frontière chilienne, et là, ton objectif, c'est de monter à plus de 6000 mètres d'altitude par tes propres moyens, et ensuite de plonger dans le lac le plus haut du monde. Pour quel objectif au départ ?
L'objectif, il est incroyable. C'est vraiment une aventure qui est humaine. C'est deux personnes. Je me retrouve au Festival Film d'Aventure à Dijon et je rencontre Sébastien Devrien.
Qui est un guide haute montagne.
On finit à 4 ou 5 heures du matin ensemble après des projections et ça se passe vraiment, vraiment bien entre nous deux et on se dit bon. Il faut vraiment qu'on trouve quelque chose où on va mixer nos connaissances. Toi, en tant que guide de haute montagne et personne qui réalise des documentaires sur des himalayistes et des aventuriers, et moi avec l'aspect plongée. Voilà. Le temps passe et puis on cherche. Et à un moment, je travaille sur... à un moment, je fais des recherches et je trouve ce lac. Et là, je l'appelle et je lui dis, bon, ça y est, je l'ai trouvé le sujet pour nous deux, quoi. Il me dit, OK, on va essayer de monter... un doc par rapport à ça, et on est parti là-dessus, et j'ai commencé à, une fois de plus, travailler sur l'ingénierie et le matériel qui allait être amené là-haut pour qu'on soit les plus légers possibles, et transporter le minimum de matériel, et ensuite réaliser cette prouesse qui était de plonger en recycleur à près de 6000 mètres, quoi.
Oui, parce que, hein, on est d'accord, vous montez au sommet du volcan Nevado Oros del Salado, 6390 mètres, en tout cas c'était l'objectif, c'est le toit du monde en ce qui concerne les lacs. Mais il faut y aller, encore une fois, parce que vous n'êtes pas déposé en hélicoptère, vous montez avec votre matériel à pied.
Oui, l'idée c'était vraiment d'être totalement acclimaté. Donc non seulement on est arrivé à Buenos Aires... Et on s'est fait 2 jours de bus pour s'approcher jusque là-bas, parce que quand tu as des bouteilles de plongée qui sont pleines, tu n'as pas le droit de prendre l'avion. Donc tu vois, déjà, on s'est acclimaté à traverser tout le pays en bus, quoi. Ce qui est merveilleux. C'est vraiment un pays merveilleux. Et ensuite, on a tout fait à pied, justement, pour être en condition pour attaquer la plongée. Donc ça, si tu veux, ça a été tout un travail préparatoire qui était très important. Mais l'idée, c'était vraiment d'atteindre cette autonomie. Chose que l'on a poussée encore plus haut, cette année, puisqu'on y est retourné au mois de février.
Frédéric, comment t'es-tu préparé pour réussir cet exploit en altitude en Argentine ?
C'était vraiment un training dans les Calanques de Marseille. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir tester l'ensemble du matériel chez Comex. Et donc, dans ces installations-là, ils ont une caisson en hypobarie, justement, dans lequel on a pu mettre en place une manip en piscine, dans de l'eau à 2 degrés, avec l'ensemble du matériel pour savoir si tout allait suivre, si j'allais vraiment pouvoir assumer cette plongée. Tu te rends compte que si, après 15 jours de transport, j'arrive là-haut, je plonge et rien ne répond, c'est un peu du gâchis, quoi.
La Comex, bien sûr, cette société basée à Marseille, spécialisée dans les travaux sous-marins extrêmes. Vous y êtes retourné donc cette année, et le problème, il n'est pas physiologique. Là, le problème, c'est que, en montant, vous n'aviez pas assez d'eau, il n'y avait pas assez d'eau et quand il y avait de l'eau, elle était trop soufrée pour pouvoir la boire.
C'est affreux en fait, tu vois, comme l'histoire du lac Rouge en Croatie où j'avais pas eu assez de neige pour avoir les 300 mètres. Cette année en Argentine, c'est exactement la même chose. Ils se sont retrouvés sans neige. Et c'est cette neige en fondant qui alimente les lacs. Et donc on s'est retrouvés cette année, on est quand même, si tu veux, au niveau de ce qu'on consomme par jour. on est facilement à 6 litres d'eau nécessaire par jour. Donc, quand tu vis à 5000 mètres, tu ne vas pas commencer à transporter 6 kilos d'eau par jour pour aller encore plus haut. Donc, on a complètement été castré à ce niveau-là, dans le sens où on n'a plus trouvé d'eau pour pouvoir se déplacer. Donc, c'est incroyable. Si tu veux, sur ce film-là qui va sortir là pour l'automne, on voit bien l'impact qu'il y a eu entre 2019 et 2020 au niveau du manque de neige. Tout ce qui était source en eau était tari.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre cette constatation et le réchauffement climatique ?
Je ne suis pas assez spécialiste pour, si tu veux, évaluer l'impact du réchauffement climatique. Mais la réalité, c'est que là, on s'est retrouvé avec des glaciers qui étaient totalement fondus et pas d'eau à partir de 5005. Quoi. Alors, étant donné que cette zone-là, c'est une zone qui est désertique, mais surtout volcanique, sur plus de 200 km de long, il ne te reste plus que là des eaux qui sont mélangées avec du soufre et de la ferrite et des choses qui sont imbuvables. De toute façon, on est sur une zone de non-vie à cet endroit-là. Et je pense que la non-vie vient du fait que l'eau est polluée et qu'aucun organisme vivant arrive à survivre dans ces conditions-là.
En tout cas, en 2019, en réussissant une plongée sous glace à 5800 mètres d'altitude, tu as battu le record de la plongée la plus haute qui appartenait depuis l'an 2000 à des Suisses. Mais tu nous le disais précédemment, le record, ce n'est pas ton objectif numéro un. Néanmoins, je voudrais qu'on plonge avec toi à ces altitudes incroyables. Cette plongée, elle a duré combien de temps ? Quelle était la température de l'eau ? Et est-ce qu'il y a une vie sous-marine dans ces endroits aussi élevé?
Au final, il y aura eu deux plongées. Il y aura eu 2019, 2020. 2019, je me retrouve tout seul à casser la glace avec un recycleur et à passer dans cette eau glacée, mais quand même avec un vêtement qu'on appelle étanche. C'est-à-dire que dessous, je m'habille. C'était quand même assez lourd, tu vois, comme plongée. Et ce que j'ai adoré surtout, c'est cette année. Cette année, on a, si tu veux, j'ai fait le pari de partir en ultra léger. Parce qu'avec Sébastien, on avait notre sac à dos et un chariot qu'on a tiré. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucune aide extérieure. On a transporté notre matériel de vie, notre matériel de campement, tout le matériel de tournage et le matériel de plongée pour deux plongeurs. J'ai passé un an à l'entraîner pour qu'il vienne avec moi, cette fois-ci plonger. Et on a pris le pari de plonger avec des vêtements de chasseurs, comme les gens que tu vois en Méditerranée qui vont faire de la chasse sous-marine. Des vêtements en néoprène. Rien de spécialisé, si tu veux. On a pris le pari de prendre des choses ultra légères.
Et dans une eau à combien de degrés ?
On est en dessous du gel, juste. On est à 1 degré. Donc, on a fait ce pari. Il a été préparé. Il y a eu une préparation incroyable. Et c'est, une fois de plus, c'est 50% de ce qui me plaît le plus dans la plongée. C'est la préparation qu'on a réussi à mettre en œuvre en amont, si tu veux. Mais on s'est retrouvés cette année à faire de la plongée tous les deux en vêtements humides. C'est quelque chose qui est inenvisageable, c'est impossible. Et si on arrive encore à replonger dans les années qui vont suivre, je ferai quelque chose avec des vêtements encore plus légers, encore plus petits. C'est vraiment le minimalisme qui m'intéresse. C'est vraiment ça qui m'intéresse.
Et avec ces combinaisons humides, vous êtes resté combien de temps sous l'eau ?
On a fait une demi-heure, presque trois quarts d'heure. Enfin, j'étais pas du tout bien au niveau des mêmes parce que j'y avais laissé la meilleure paire de gants et moi j'avais les gants les plus les moins performants. Donc voilà. Mais et puis il y avait une excitation énorme.
En tout cas, il y a aussi un projet scientifique derrière tout ça parce que il y a cette confrontation entre les conditions hyperbares de la plongée dans un univers en altitude hypobare. Quel pourcentage d'ailleurs d'oxygène dans l'air à 5500, 6000 mètres d'altitude?
Pour faire simple, tu te retrouves avec la moitié. Ici, pour faire court aussi, au niveau de la mer, tu as 20% d'oxygène et là-haut, tu as plus que 10% d'oxygène. Mmh. D'où cette nécessité, si tu veux, de pas se faire envoyer là-haut en hélico et de le faire avec des masques à oxygène. Donc, on voulait le faire sans oxygène. Sébastien, qui a toujours suivi, si tu veux, des Himalayistes, même jusqu'à 8000, a toujours été contre le masque à oxygène. Parce que c'est sans retour, tu vois. Je pense que c'est comme la plongée qui est engagée, profonde et autres. Il faut tout mettre de son côté pour qu'on ne se retrouve pas en défaut s'il y a un souci. Quand je te dis que tu es à 200 mètres, si ton corps s'accélère, tu ne rentres pas. Je pense que c'est exactement la même philosophie avec le masque à oxygène en altitude. Si déjà tu pars avec ton joker, et que tu perds ton joker, tu rentres pas. Donc voilà, donc on a tous les deux la même mentalité et c'est pour ça que ça nous a vraiment plu de partir sur ce défi physiologique, médical et technique à 5005. Quoi.
Frédéric, généralement, dans les plus grandes profondeurs, tu te retrouves seul. Ton équipe est à des paliers ou à l'extérieur. Là, pour une fois, vous étiez deux du début à la fin. Qu'est-ce que ça a changé ?
J'ai trouvé un confident qui est fou aussi, tu vois, comme moi, qui aime des choses ultra simples. Pour la première fois de ma vie, je me suis reposé sur quelqu'un pour tous les aspects montagne, préparation, les marches d'approche, le campement, tout ça. Je me suis complètement reposé sur lui, chose que je ne fais pas d'habitude, tu vois. Et lui, il s'est reposé sur moi, sur les aspects plongés. Et puis après, cette année, par exemple, on s'est retrouvé bloqué dans la tente pendant 3 jours avec des vents à plus de 140 km/h. On n'a pas eu de problème, on s'entendait bien, tu vois, il n'y a pas eu de soucis, quoi. Donc, ouais, c'est un ami de folie et on se prépare d'autres aventures ensemble, quoi.
Quand on vit ensemble des expéditions aussi engagées, est-ce que les rapports humains sont proportionnels ? Est-ce que cette amitié, elle est plus forte que n'importe laquelle que tu pourrais avoir avec quelqu'un sur le plancher des vaches, sans risque ?
À partir du moment où tu as vécu et que tu as partagé un moment extrême comme ça, que ce soit dans le plaisir ou dans la souffrance, ça te permet de plus connaître l'autre en face parce que tu l'as connu dans tous les niveaux. C'est ça l'avantage de ce genre de choses, c'est que quand les gens ils sont dans la souffrance, ils sont eux-mêmes. Donc tu les connais vraiment. Donc oui, c'est essentiel parce que c'est vrai. C'est parce que c'est vrai. Et au moment où c'est vrai et où tu découvres ça, eh bien, où la personne, elle te plaît ou elle ne te plaît pas.
J'aime encore une fois te citer parce que c'est intéressant ce que tu dis et cette traduction d'émotion par des mots. Tu dis « Nous étions venus chercher la liberté ». Alors moi, ça m'amène immédiatement une question. Est-ce que tu l'as trouvé, cette liberté, cet idéal de liberté ?
Je ne crois pas qu'on puisse avoir la liberté non-stop, mais par contre, avoir des parts de liberté comme ça, c'est essentiel. Tu sais, quand tu marches 15 jours, c'est long hein, quand même. Tu n'es pas dans les Pyrénées, hein, c'est des vallées assez grandes. Chaque fois que tu arrives à un sommet, c'est encore des espaces vastes. Chose qui est essentielle dans ma vie. Souvent, j'ai besoin d'horizon comme ça pour respirer. Ce qui est fou pour un mec qui va sous terre.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est fou, quoi. Mais cet horizon, il est super important. Oui, c'est la liberté, tu vois, c'est la liberté parce que tu ne peux pas travailler devant ton PC, tu n'as pas ton téléphone portable. Tu ne peux t'occuper que de toi, quoi. Tu fais attention à tes pieds pour qu'ils puissent te transporter, tu vois. Tu fais à bouffer, tu fais le campement, et puis tu prépares une expédition qui est que pour ton plaisir à toi. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment la liberté, quoi. Tu vois, même si on est rentré, il y avait le Covid qui était là, on s'en foutait. On était loin de tout ça. C'est quand même une liberté importante. Donc oui, c'est vraiment un moment de liberté à 200%.
Frédéric, être libre, c'est être égoïste aussi ?
À fond, c'est complètement ça. Mais je sais très bien le rendre après quand je suis en communauté. Il n'y a personne qui me sert. J'adore cuisiner pour faire partager ce que je fais. J'ai vraiment besoin d'être entouré de mes amis. J'en ai pas beaucoup, mais au moins quand je suis avec eux, je me sens très très bien. Il y a vraiment deux moments différents. Il y a ce moment d'égoïsme et après, il y a ce moment de partage. Et dans ces moments d'égoïsme, par exemple, quand j'étais avec Sébastien Devrier en altitude, on avait quand même ces moments de partage aussi, de partage égoïste, puisqu'on n'était que tous les deux. Quoi. Donc, oui, bien sûr qu'il y a de l'égoïsme. Mais est-ce que je peux me reprocher mon égoïsme, là, pour faire ce genre de choses, quand on voit que dans la société d'égoïste dans laquelle on vit, je me donne plus de points à moi que de voir les gens qui nous entourent, malheureusement.
Donc forcément, ça te donne, j'imagine, plein de projets dans la tête. Évoquons ton futur. Je me suis laissé dire que tes prochaines aventures devraient t'amener dans le sud de l'Afrique, du côté de l'Afrique du Sud et de la Namibie.
En Namibie, on trouve le lac sous-glaciaire le plus géant, le plus grand, avec le plus grand volume au monde. Et le fait de d'aller une fois de plus à la quête de l'eau sous le désert, ça me paraissait complètement fou. Tu vois, après avoir cherché l'eau en altitude sur les montagnes, aller chercher l'eau sous le désert, je me suis dit, bah, c'est pour moi ça. Donc j'ai commencé l'année dernière à faire des repérages, à me déplacer sur place et voir quelle était la faisabilité d'une expédition beaucoup plus lourde. Quoi. Voilà.
À quelle profondeur ?
Ah ben, peut-être à la profondeur que tout le monde recherche, là. Peut-être à cette profondeur qui, d'un seul coup, calmerait les plongeurs en mer, dans l'eau salée, en Égypte.
Au-delà de 335 mètres de profondeur ?
Ça dépend. Est-ce que mon corps, est-ce que ma physio, est-ce que mon entraînement sera au rendez-vous de ce que va m'offrir la planète en cet endroit-là ? Pourquoi pas,
hein. Ouais, mais c'est l'objectif. En tout cas, ton sourire dans la voix traduit cet objectif.
Mais cet endroit est merveilleux, si tu veux. Une fois de plus, tu as un petit passage étroit au milieu des chauves-souris. Et puis là, tu arrives. Imagine que tu sois au Stade de France, qu'il est couvert, le Stade de France, et qu'à un moment, au lieu d'arriver en hélico, comme font tous les artistes, toi, tu passes par là avec ta corde et tu es plein gaz et que la pelouse, c'est de l'eau claire à plus de 100 mètres de visibilité. Tu arrives là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu te jettes. En plus, l'eau, elle est bonne, quoi. Donc, bon, entre-temps, t'as quand même traversé des espaces immenses. Il y a de la vie partout. Et là, voilà, tu traverses cette zone de désert et tu trouves ça, ce qu'attend tout le monde de l'eau, quoi. Voilà, c'est envoûtant. Hein. C'est attirant, je peux pas dire non, c'est impossible.
Alors, évidemment, il y a ce fameux coronavirus qui limite nos déplacements à toutes et à tous. Mais l'avantage, j'ai l'impression, dans ton monde à toi, c'est que la France est aussi l'un des plus beaux terrains de jeu de la planète pour descendre dans des grottes, pour descendre très profond dans des lacs.
Je suis content de revenir en France. Là, j'espère aussi pouvoir repartir dans le Larzac là, d'ici à peu près un mois pour aussi une belle expédition où là, il faudra au moins entre 10 et 15 porteurs pour pouvoir amener ça parce que il y a plus de 2h30 de pénétration sous terre avant que j'arrive sur le réseau noyé et que je puisse faire la plongée. Voilà, c'est retrouver d'autres sensations et puis pas le partager en anglais. On parlera en français et puis tu vois, on mangera du fromage pour avoir du vin rouge et puis ça sera différent, quoi. Voilà.
Frédéric, pour que la boucle soit bouclée, tu me disais au début de cet entretien que tu as commencé la plongée, ce qui est classique, en mer. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi que tu te recentres sur la plongée dans l'eau salée avec d'autres exploits, d'autres recherches scientifiques ?
En ce moment, je travaille sur un bateau que je cherche avec un ami pêcheur depuis plus de 25 ans, qui est au large des Landes et qui était un bateau de migrants sous Franco, qui remontait vers la Bretagne et qu'on a découvert. Donc voilà, je prépare un très très beau sujet aussi là-dessus en mer.
À quelle profondeur est-il ce bateau, cette épave ?
Ah, il est à plus de 170 mètres. Et je prépare une trilogie là-bas, donc ça sera bien.
En tout cas, quel bonheur de t'écouter nous parler de cette vie trépidante, cette vie d'aventurier, d'explorateur. Merci beaucoup Frédéric Zwierzynski d'avoir été mon invité dans Vie d'aventure. Et on a bien compris quand même que dans un petit coin de ta tête, j'ai même envie de dire dans un très gros coin de ton cerveau, cet objectif de descendre à moins 335 mètres de profondeur était bien réel pour faire de toi peut-être l'homme le plus profond du monde avec un recycleur ou avec une bouteille. Merci en tout cas infiniment Frédéric.
Merci Denis.
Merci infiniment de votre fidélité. Quel bonheur de partager cette aventure podcast avec vous. Alors si vous avez des remarques, des suggestions, des propositions, n'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou encore Facebook. Si l'épisode vous a plu, profitez-en pour vous abonner, partager, laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Vie d'aventure. Je compte sur vous. Très belle journée.